Les logiciels libres ou open source ont le vent en poupe. En témoigne par exemple le navigateur Firefox qui grignote tous les mois des parts de marché face à son grand rival Internet Explorer. Il y a aussi les systèmes d'exploitation, Ubuntu et Mandriva, des marques entre guillemets de Linux et son célèbre pingouin. Les logiciels libres sont des programmes réalisés par une communauté de passionnés, rémunérés ou non. Ils sont mis gratuitement à la disposition du public, des personnes comme vous et moi ou encore des professionnels comme des entreprises. Et puis il y a les applications liées aux logiciels libres, la participation des habitants d'un quartier à l'écriture d'articles via le web par exemple, ou encore l'enseignement dans les écoles. Au cours de cette émission, nous allons découvrir le monde du logiciel libre et nous l'espérons vous donner envie d'installer sur votre PC un ou plusieurs programmes. Et si vous ne voulez pas le faire vous-même en téléchargeant un logiciel sur Internet, vous pouvez confier cette tâche à un professionnel.
Frédéric Steninger, je suis le dirigeant de la société SOS Dépanne PC dans le département 29 sur Quimper. Ce que l'on fait, c'est la réparation de matériel informatique, la réinstallation, formatage, mise à niveau, etc. Et c'est vrai qu'on met beaucoup de logiciels libres pour pallier à des solutions payantes qui sont des fois beaucoup trop chères. Et donc, par exemple, les suites bureautiques OpenOffice que l'on installe donc sur tous les PC que l'on propose à la vente ou en réparation, parce que la plupart des clients n'ont pas forcément de suite bureautique et ça leur permet d'avoir déjà de quoi travailler. Et puis certains par la suite prennent des logiciels payants comme la suite Microsoft Office et d'autres continuent à utiliser ces suites gratuites. On est partenaire Microsoft et partenaire d'autres revendeurs de logiciels, mais non, ils ne nous mettent pas la pression, on n'a pas d'obligation envers eux. Par contre, c'est vrai qu'ils aimeraient peut-être, je pense, qu'on vende un petit peu plus de leurs logiciels. Seulement, on leur fait comprendre à chaque fois qu'il y a toujours le même problème récurrent, c'est le tarif. Le tarif qui est toujours, à notre goût et au goût de beaucoup de clients, bien trop élevé. Ça démarre aux alentours de 200 € pour avoir Word, Excel, Outlook, enfin, sauf les versions étudiants qui sont maintenant à 99 €. Et après, vous avez jusqu'à 300-400 € suivant les compléments que vous rajoutez. Donc, vous pouvez avoir Publisher, PowerPoint, etc. Et donc, automatiquement, la note s'élève assez rapidement. Et lorsque vous avez donc un besoin qui est léger, ne serait-ce que 99 € pour faire juste un peu de traitement texte, souvent ça rebute les gens. Et donc on leur propose cette alternative qui est OpenOffice par exemple, qui permet de faire du traitement texte.
On fait la même chose avec OpenOffice ?
À 95% on va dire oui. Et c'est maintenant très compatible, voire même quasiment totalement compatible avec Microsoft Office. Donc avant, ils n'étaient pas capables de lire les versions Word et Excel des fichiers Office 2007. Maintenant, il est 100% compatible. Il reste encore quelques petites incompatibilités de mise en forme de temps en temps ou sous les tableaux, par exemple, quelques formules qui ne sont pas reconnues, mais c'est vraiment pour les utilisateurs avancés. En règle générale, pour le commun des utilisateurs, c'est amplement suffisant d'avoir une version libre de traitement de bureautique et tableur. Quoi.
Alors vous allez proposer bientôt aussi des installations de Linux pour remplacer Windows.
Alors au niveau de l'ergonomie, maintenant, ça ressemble énormément à Microsoft, à Windows, quelle que soit la version. Et puis surtout, vous avez maintenant la possibilité, grâce à des logiciels donc gratuits ou open source ou libres, qui sont disponibles sur les communautés Linux, de faire tourner des applications Microsoft sur Linux et inversement. Donc, ce qui fait qu'on voit très souvent, on a des clients qui sont linuxiens et qui viennent de temps en temps nous demander telle ou telle machine, telle ou telle configuration, etc. Ils mettent leur Linux après et ils ont quand même des jeux, par exemple, parce que très souvent, ce sont des joueurs. Et ils ont, par exemple, je prends un exemple, Half-Life ou ce genre de jeux qui tournent sous Linux, alors que ce sont des jeux Windows. Et ils ont des petits utilitaires comme ça qui les font tourner sous Windows sans toucher leur configuration Linux. Sous Linux, vous avez beaucoup moins de choses qui tournent en tâche de fond. Le noyau, lui, est déjà plus léger que celui du noyau de Microsoft. Donc automatiquement, il demande beaucoup moins de mémoire. Et c'est pour ça que vous voyez énormément maintenant de petits ultra portables, les IPC, etc. Les netbooks qui sont à la grande mode maintenant et qui, le trois quarts, sont de plus en plus distribués sous Linux. Parce que sous Linux, par rapport à une version Microsoft, même déjà XP, c'est déjà 3 à 4 fois plus rapide.
Et vous en avez beaucoup des acheteurs ?
On a pas mal d'acheteurs de netbooks, c'est de plus en plus.
Ça,
c'est
ils ont peur ou pas dès qu'ils voient le système Linux ? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas s'y retrouver ?
Disons qu'on a deux catégories. On a les gens qui connaissent un petit peu le monde du libre et qui justement viennent pour les netbooks sous Linux et donc ils connaissent la plupart des utilisations, Mozilla, Firefox, etc. Et tout ça. Ils viennent dans le but de surfer avec leur netbook, dans le but de faire un peu de traitement de texte, d'être itinérant, etc. Donc, ils n'ont pas besoin de choses très, très complexes. Par contre, on a une deuxième catégorie qui est la catégorie des gens qui veulent quand même avoir du Windows parce qu'ils ont besoin de faire tourner certaines applications qui ne tournent que sous Windows et qui sont au minimum sous XP. Et donc sous XP, on arrive à avoir une vitesse sympathique pour faire travailler en fait un netbook. Mais c'est vrai que Linux restera beaucoup plus rapide.
Je m'appelle Karine Lemarinel, j'utilise Linux depuis à peu près 2-3 ans. Suite avec des soucis par rapport à Windows. Et puis les enfants qui jouaient tout le temps à l'ordinateur et qui m'installaient des cochonneries à droite à gauche. Du coup, en mettant Linux, j'avais plus de chances que les enfants n'utilisent moins l'ordinateur que moi.
C'était quoi les problèmes avec Windows ?
Des écrans bleus ou alors des virus à droite à gauche qu'avec Linux je n'ai pas. Parce qu'il n'y a pas de virus pour Linux. Parce que je pense que les gens sont plus préoccupés par faire des virus pour Windows que plus pour Linux. Des programmes, pour les photos, j'utilise F-Spot pour faire des retouches GIMP. Et pour discuter avec les copines ou avec la famille, j'utilise AMSN. C'est exactement la même chose qu'MSN, sauf que c'est une copie pour Linux.
Et au niveau de l'interface, est-ce que c'est facile de s'y retrouver
Je trouve que c'est assez bien rangé parce qu'en fait, je vais vous montrer... Donc par exemple, si vous voulez lancer Firefox, qui est le navigateur libre pour Linux et pour Windows aussi, donc c'est rangé par catégorie, donc logiquement, Internet, et hop, après je lance Firefox, voilà. Pour aller voir les photos, donc dans graphisme, et après F-Spot.
Donc c'est un peu le même principe qu'avec Windows, mais est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ?
Des choses que je peux pas faire. Pour l'instant, non, je n'ai pas eu de soucis. Je suis vraiment qu'une utilisatrice de base, donc je cherche pas à faire des programmes ou des trucs comme ça.
Alors, il y a aussi un intérêt financier ?
Oui, qui est gratuit. Et du coup, d'utiliser que des logiciels gratuits, pas besoin d'antivirus ou d'antivirus qui est payant pareil.
L'évolution des logiciels aussi, c'est important. Leur mise à jour ?
Ça se fait automatiquement. Il y a une fenêtre qui s'ouvre sur le bureau, il y a juste à mettre notre mot de passe et il installe les mises à jour automatiquement. C'est tout.
Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de passer sous Linux ?
Non. Non, parce que c'est assez simple, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. On ne peut pas faire de bêtises. Non, c'est...
Vous en discutez autour de vous ?
Oui.
Et vous avez affaire à des personnes un peu récalcitrantes ?
Qui ont peur de se lancer dans Linux, de ne pas connaître et d'être perdu par rapport à Windows qu'on impose quand on achète un ordinateur. Que là, Linux, il faut savoir l'installer, puis les logiciels à installer, tout ça, c'est pareil. Les gens ne savent pas forcément. Et ils n'ont pas le réflexe non plus de faire une recherche dans Google ou autre pour s'aider à... en moindre difficulté.
Alors que là, au contraire, c'est facile à utiliser. On a les mêmes logiciels, ceux qu'on connaît en tout cas, comme Firefox par exemple.
Oui, qui tourne aussi bien sur Linux que sur Windows. Pareil pour GIMP. GIMP tourne aussi sur Windows et sur Linux. MSN aussi, sur les deux.
Vous vous tenez au courant de l'actualité informatique ?
Pas spécialement, non.
La sortie de Windows 7, ça vous...
Je connais pas. Moi, je suis arrêtée à Windows XP, Vista, j'ai jamais vu, et le reste, je connais pas.
Et par curiosité ?
Non, ça m'intéresse pas. Mon ordinateur marche bien comme ça, je vois pas pourquoi je changerais pour un Windows.
Qu'est-ce qu'on a entendu ?
Le son de démarrage de Linux Ubuntu.
Sur RCF Rivage, nous parlons aujourd'hui des logiciels libres. Michel Briand en charge l'économie sociale et solidaire et l'aménagement numérique du territoire à Brest Métropole Océane. Il est incontournable sur cette question des logiciels libres et de leur usage face aux logiciels propriétaires au sein des collectivités.
Les logiciels sont faits pour être utilisés le plus librement possible et que si le code est ouvert et que tout le monde peut l'enrichir, on voit bien que le produit s'améliore. Moi, je pense que des sociétés de services ont vocation à vendre des services, à accompagner des utilisateurs, mais je ne suis pas favorable à une économie de la rente dans le monde du numérique. Quelque chose, une fois que le logiciel est construit, ce logiciel ne coûte rien à être dupliqué, et donc il vaut mieux favoriser la libre copie des logiciels et faire donc favoriser ce qui est l'essence même du logiciel libre, c'est-à-dire on paye une fois et ensuite, ces logiciels-là, on les met à disposition et on vend des services pour apprendre aux usagers à mieux utiliser ces outils. Sur la ville de Brest, nous avons développé autour de la publication des outils qui permettent de réaliser des sites participatifs. Tous les développements qui ont été réalisés par la ville ont été payés aux développeurs. Et maintenant, ces développements sont mis en licence libre de façon à ce qu'une autre association, une autre ville, peut réutiliser les développements que nous avons faits. Mais un développement a un coût et je trouve normal que la collectivité finance des développements. Mais après, il est important de faire en sorte que ces développements puissent être librement réutilisés par d'autres. Dans le développement des logiciels libres, il y a deux choses. Il y a des communautés, effectivement, qui bénévolement s'impliquent, améliorent les logiciels. C'est le cas, par exemple, du système de publication SPIP, largement utilisé sur Brest. Mais il y a aussi, sous le développement lourd comme OpenOffice, des gens qui sont rémunérés par des sociétés pour, effectivement, contribuer à ce développement. Nous avons, dans l'administration et les services publics, plus d'un million d'utilisateurs d'outils de logiciels de traitement de texte, de navigation. Il ne me semblerait pas aberrant que l'État, au lieu de payer un million de licences à un développeur américain, se dise bah, « avec le coût d'un million de licences, je peux peut-être financer 100 000 programmeurs qui développent les outils dont j'ai besoin ». Donc je serais beaucoup plus pour un investissement du service public qui contribue à enrichir les logiciels libres, et le coût serait le même pour l'État. Donc on pourrait très bien, si on était dans une logique où on comprend un peu ce que c'est que le logiciel libre et qui participe effectivement à du bien commun, dire l'État investit dans des logiciels qui met à la disposition de l'ensemble de la population, non seulement les personnes des services publics qui ont besoin de ces outils pour travailler l'auraient, mais à partir du moment où c'est libre, ça veut dire aussi que ces outils seraient à disposition des habitants, des associations et même des entreprises, bien sûr.
Est-ce que ça peut fonctionner pour les collectivités également ?
Il y a une association qui s'appelle Adulact, dont la collectivité brestoise est adhérente, qui justement travaille au développement collaboratif de logiciels, avec une prise en charge quelque part un peu mutualisée, pour créer des outils et éviter que pour un système, par exemple, de gestion des élections, on ait 25 produits et qu'on paye une licence à chaque fois. Il vaut mieux se mettre d'accord sur un cahier des charges ou plusieurs cahiers des charges, parce qu'il peut y avoir des variantes, et puis essayer de s'organiser pour produire collaborativement cet outil-là, qui est ensuite mis à disposition de tout le monde. C'est ça l'approche du logiciel libre.
Est-ce qu'à Brest et sur Brest Métropole Océane, on utilise les logiciels libres de cette manière, Michel Briand ?
Dans la collectivité, il y a effectivement des navigateurs et puis l'outil traitement de texte qui est mis à disposition des employés, mais ceci est le libre choix de chaque employé. Donc personnellement, moi je souhaiterais que l'usage se développe dans la collectivité, mais c'est un changement culturel qui demande du temps long et une volonté politique qui reste à discuter. Au niveau de Brest, on a commencé par favoriser l'accès public avec donc les points d'accès public et avec ces 100 PAPI, points d'accès public à Internet. La ville de Brest est une des villes de France où il y a la densité la plus importante. Ensuite, on a travaillé sur l'accompagnement des projets, sur l'accompagnement de l'expression, aider les associations à faire des sites. Et on est passé tout naturellement à la coproduction. C'est-à-dire, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas produire des choses ensemble ? Et donc, la première chose que nous avons réalisée de manière collaborative sur Brest a été le CD Bureau Libre, c'est-à-dire un CD de logiciels libres qui contient les outils de bureau courants. Eh bien, ce CD a été distribué à plusieurs milliers d'exemplaires sur Brest, mis à disposition dans les bibliothèques. Aujourd'hui, il est distribué à tous les étudiants des quatre universités de Bretagne et l'ensemble des tirages de bureaux libres repris dans différentes régions en France dépasse les 200 000 exemplaires. Donc ça, c'était la première réalisation. Ensuite, on a produit aussi des logiciels libres, comme je l'indiquais, autour d'un système de publication de vidéos qui s'appelle le MediaBlog et autour, effectivement, des systèmes de publication. On contribue à l'évolution du système SPIP en particulier. Et Ensuite, étape logique, on est passé des logiciels libres au contenu libre. Et donc, Brest s'est impliqué sur la création de Wikibrest, c'est-à-dire des carnets sur le vivre ensemble, le patrimoine au pays de Brest, qui s'inspire de Wikipédia. Et on s'est aperçu aussi que, de la même façon que des développeurs contribuaient au développement du logiciel libre, les habitants, les associations contribuaient à créer effectivement un carnet collectif, collaboratif, dont beaucoup de contenus sont librement réutilisables et qui racontent effectivement le vivre ensemble au pays de Brest. Et donc c'est cette logique-là maintenant qu'on veut essayer de développer dans la semaine Brest en bien commun, c'est-à-dire...
Du 10 au 16 octobre.
Du 10 au 16 octobre, où effectivement on montrera que les photos aériennes de la ville de Brest, financées par la ville, sont mises à disposition de tout un chacun, aussi bien des habitants que des entreprises qui souhaitent les utiliser. Que sur Brest, des personnes font de la cartographie de la ville à Brest, mais aussi sur la commune de Ploirzel, de façon à ce que les données cartographiques soient libres et qu'on puisse dessus les compléter, les enrichir. Par exemple, sur Ploirzel, les projets d'avoir effectivement la carte des fours de Goémont. On peut avoir une carte avec les associations sur Brest. Il y a énormément d'applications qui sont possibles dès lors que les données sont libres. Et le paradoxe, c'est que ces données, elles existent, elles sont propriété de l'IGN, qui normalement est un service public, mais qui refuse de les mettre à disposition des habitants et des associations. Donc on refait le travail à la main, mais on va y arriver.
Pierre-Yves Cavella, là, en fait, on se trouve devant le site AZEF d'Images, qui est un site collaboratif dédié à la publication de photographies. Le Pays de Brest, c'est le périmètre géographique de publication, pour le moment, en tout cas.
C'est quoi un site collaboratif de photographie ?
C'est-à-dire, en fait, c'est un site où il n'y a pas un auteur dédié à la publication, mais un ensemble. En l'occurrence, là, on est sur un petit peu moins d'une centaine de personnes. L'idée, en fait, de ce site est de créer un espace de partage photographique. Donc, en fait, les photographies qui sont publiées le sont toutes sous la licence Creative Commons, qui dit que, pour faire simple, on peut réutiliser les photographies sous certaines conditions. Pour le moment, vous pouvez récupérer les photos à condition de citer l'auteur, à condition de ne pas faire de commerce, c'est-à-dire de ne pas les revendre ou les utiliser dans un cadre commercial. L'idée, c'est de faire profiter l'internaute des photographies afin qu'il puisse éventuellement les réutiliser s'il le souhaite, dans le cadre qui est prescrit par la licence Creative Commons, que ce soit dans une dimension pédagogique avec des élèves, d'illustration d'un site internet par rapport à tel ou tel sujet. Là, on a par exemple pas mal de photographies de vieux gréements. Potentiellement, ce sont des photographies qui peuvent intéresser des associations qui travaillent autour du patrimoine.
Les photographes qui râlent un petit peu parce que les photos sont mises à disposition, notamment au niveau des collectivités, des offices de tourisme, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ?
Michel Briand.
On est dans un monde où la production de contenu se démocratise. Il y avait un moment, il n'y avait que les copistes, moines, qui avaient le droit, effectivement, le temps, et qui étaient payés pour copier des documents manuscrits. Puis est arrivée l'imprimerie. Et là, patatras. Tout le monde peut produire un livre, et ces livres peuvent être lus. Ça a amené la réforme, ça a amené, effectivement, une certaine démocratisation de la société. Est-ce que c'était dommage pour les moines copistes qui avaient ce privilège ? C'est un changement. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier ce changement. De plus en plus de musiques du monde sont en ligne, de plus en plus de gens mettent des photos, de plus en plus de gens écrivent. Est-ce que c'est un mal que les gens s'expriment ? Après, derrière, il faut regarder comment on évolue. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que le budget de la collectivité pour l'achat de photos ne devait pas baisser. Simplement, on peut avoir utilisé tes documents qui sont librement réutilisables, mais pas pour autant que la commande publique doit baisser. Et simplement, on doit faire des commandes en direction des photographes, par exemple, sur des thèmes particuliers, là où on a besoin de professionnels. Mais s'il y a aussi des choses qui sont librement réutilisables, réutilisons-les. Je vois dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, Césamat regroupe 3000 professeurs qui produisent des contenus mathématiques, pédagogiques, librement réutilisables. Je pense que c'est un progrès, parce que si ce n'est pas la peine que chacun réinvente tous les exercices, mutualisons, ça libère du temps. Avec ce temps libre-là, on pourra faire autre chose et la société s'enrichit s'il y a plus de contenu mis à disposition. Plus de contenu, c'est plus de science, c'est plus de culture. Et si une partie de ces cultures et de ces contenus sont librement réutilisables, eh bien tant mieux pour tout le monde.
RCF Rivage.
Votre radio locale.
S'il est une administration qui a bien saisi la nécessité d'utiliser les logiciels libres, c'est l'Éducation nationale. Tout comme dans l'enseignement catholique, les professeurs et les élèves utilisent des programmes gratuits. Plusieurs avantages, le prix d'abord, mais aussi une certaine idée du partage.
Pierre Créache, alors animateur en technologie de l'information et de communication dédié à l'enseignement.
Pourquoi est-ce que l'Éducation nationale a fait le choix des logiciels libres ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Historiquement, effectivement, beaucoup d'enseignants ont concouru au développement du libre. Ensuite, l'Éducation nationale, mais pas seulement l'Éducation nationale, a fait le choix du libre pour des raisons de coût. On peut, par exemple, considérer que sur une ville comme Brest, où il y a quasiment 800 ordinateurs dans les écoles primaires, élémentaires et maternelles publiques, à raison de 50 euros la licence pour une suite propriétaire, ça fait beaucoup de sous. Donc, le libre peut se justifier pour des raisons de coût, déjà. Il y a aussi une notion de démocratisation. Il est évident que si on veut former les gens à l'utilisation d'un logiciel, que ce soit des enseignants ou des élèves, ces enseignants, ces élèves-là seront dans l'obligation que d'investir dans l'achat d'une licence pour le même produit de façon à l'utiliser à la maison. Ce qui n'est absolument pas compatible avec une démocratisation de l'utilisation des TIS et l'intégration des TIS au service de l'appropriation de connaissances pour tous.
Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel libre ?
Alors en l'occurrence ici sous le pays de Brest, dans le cadre des écoles élémentaires et maternelles, on est sur un système propriétaire qui est donc Windows et on essaie d'y insérer le plus possible de briques logicielles libres ou gratuits. Donc le libre classique, c'est effectivement la suite OpenOffice, suite bureautique, navigateur Firefox, traitement du son Audacity, traitement de l'image, on est plutôt sur des logiciels gratuits puisque le libre faisant référence étant GIMP ou GIMP est trop difficile d'accès pour des élèves de cet âge ou même des enseignants intervenant à ce niveau.
Pourquoi est-ce que l'Éducation nationale est restée sous Windows et n'est pas passée sous des systèmes Linux par exemple qui sont totalement libres, totalement ouverts ?
Alors, il y a certains départements où le choix a pu être fait d'essayer d'amener les écoles à s'équiper en Linux ou en Macintosh. L'Éducation nationale, de façon officielle, reconnaît une présence du libre au niveau des collèges et lycées, mais uniquement pour les systèmes d'exploitation, en gros pour les serveurs, pour des histoires de sécurité. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est station de travail, on est encore majoritairement sur du système propriétaire, très souvent sur du Microsoft et un peu moins sur du Macintosh.
Autre avantage des logiciels libres, du point de vue des enseignants, la lutte contre le piratage, une tentation forte de la part des élèves, bien souvent. Écoutons pour terminer ce témoignage très instructif d'Anthony Legarce. Il est responsable informatique à la brasserie Brit à Tréguin. La société s'est équipée en logiciels libres, notamment pour faciliter la gestion des stocks et des commandes. Et elle y trouve son compte, nous dit Anthony Legarce.
Par rapport aux autres logiciels de production, nous, on avait quelques problématiques. Nous, on voulait, par exemple, apporter la possibilité donc de gérer les taxes qu'on doit reverser à l'État, parce que comme on est producteur d'alcool, on a des taxes que d'autres sociétés n'ont pas. Et bon nombre de logiciels ne gèrent pas, par exemple, cette fonction-là. Le fait d'avoir un logiciel open source, ça veut dire qu'on peut, du coup, en modifier le code et donc modifier certaines fonctionnalités. Ça nous a permis donc de gérer, par exemple, sur une facture, là où vous aurez d'habitude le montant hors taxe et la TVA, nous on peut avoir le montant hors taxe, la TVA et les droits d'assis, c'est-à-dire ce qu'on va reverser à l'État parce qu'on produit de l'alcool. L'aspect sécurité, je dirais qu'il y a un peu un pour et un contre parce que n'importe qui a accès au code et donc n'importe qui peut trouver les failles. Mais d'un autre sens, un logiciel open source va être modifiable par plusieurs milliers, voire millions d'utilisateurs qui rajoutent des petits modules. Et donc les gens vont se rendre compte des problèmes de sécurité et les améliorer au jour le jour. Ça dépend un peu de la communauté qu'il y a derrière. Souvent, quand il y a un logiciel open source, il y a une forte communauté derrière, comme pour Compierre. Beaucoup de gens interviennent dans le développement de ce logiciel-là.
Mais vous n'avez pas payé le logiciel, c'est ça ?
Non. Par contre, c'est un autre modèle économique. C'est qu'il faut quand même du service derrière pour avoir de la maintenance, pour avoir... C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes garanties à l'utilisation quand on utilise un logiciel open source. Je prends pour ce logiciel-là, c'est moins fiable qu'un logiciel qu'on aurait payé. Donc justement, pour revenir à votre deuxième question, qui d'open source ne veut pas du tout dire gratuit. Les gens confondent souvent ça et se disent, ils plongent vers ce type d'outil-là. Ma société, elle a choisi ce logiciel-là, par exemple Compierre, il y a 4 ans, et avec un prestataire externe. à force de faire intervenir un prestataire tout le temps, ça leur a coûté très très cher au départ. C'est pour ça qu'ils ont décidé donc de m'embaucher et d'avoir quand même un informaticien en interne pour pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus de connaissances en informatique, quoi.
Si les entreprises ont le choix entre acheter, admettons, 10 licences d'un logiciel et pas de responsable informatique comme vous, il vaut mieux qu'elles investissent dans un responsable informatique, dans une personne chargée de s'occuper d'un logiciel libre et de distribuer gratuitement les 10 licences.
Sur le long terme, en fait, c'est plus financièrement, ce sera mieux. C'est vrai que moi, c'est le choix que la société a fait ici. Ils se sont fait conseiller par une société externe qui leur a donné un petit peu cet avis-là pour qu'ils partent en ce sens. Mais bon, c'est vrai que beaucoup de sociétés ont un petit peu peur. Les gens se disent « Ah, c'est gratuit, donc c'est forcément moins bien que quelque chose de payant ». Mais aujourd'hui, c'est pas vrai, parce que c'est pas simplement le fait que ce soit gratuit, c'est que c'est modifiable par tout le monde. Et là où une autre société, par exemple, qui a choisi le même logiciel que nous, va lui rajouter une fonctionnalité, il va l'offrir après à toute la communauté. Et donc, c'est vrai que le temps que l'informaticien d'une autre boîte aura passé dessus, et c'est du temps que moi, je ne passerai pas. Et puis, vice-versa, ce que j'aurais fait, je vais aussi l'offrir à la communauté.
Donc c'est la solidarité qui prime à ce moment-là.
Exactement.
Voilà, notre émission Initiative se termine. Merci à nos intervenants. Voici quelques contacts si ce thème des logiciels libres vous intéresse. Le magasin SOS Dépannage PC à Quimper, qui installe des logiciels libres, est situé 103 avenue de la France Libre. Adresse du site internet de photographie collaborative également. www.1zef2images.org www.azefdimage.org. Et puis l'adresse du site Citoyenneté et Nouvelles Technologies du Pays de Brest, www.a-brest.net.